VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Tout d'abord, le triple attentat suicide qui a frappé mardi soir l'aéroport international Atatürk d'Istanbul en Turquie. Le tout dernier bilan officiel, 41 morts, dont 13 étrangers et 239 blessés, sur l'attaque la plus meurtrière dans la grande métropole turque, déjà frappée par 3 attentats cette année. Le gouvernement turc attribue le carnage hier soir au groupe État islamique. Plus de détails sur l'attaque avec Jean-Roger Bion.
Selon les autorités, des explosions ont d'abord eu lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22h local, 19h GMT. 3 assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction. Une fusillade a éclaté, puis les kamikazes se sont fait sauter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme dans un communiqué. Cette attaque qui s'est déroulée pendant le mois du Ramadan montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur, a dit le président turc.
Quelles sont les réactions dans le monde face à l'attaque ?
Le président français François Hollande a condamné fermement un acte abominable, tout en appelant à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte anti-terrorisme. Ici à Washington, un porte-parole de la Maison-Blanche a condamné ces attaques abominables, tout en promettant le soutien des États-Unis à Ankara. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque terroriste et a lui aussi réclamé une coopération internationale accrue.
Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi condamné l'attaque et exprimé ses condoléances au peuple turc. Monsieur Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus au téléphone aujourd'hui pour la première fois depuis le début de la crise diplomatique entre leurs deux pays en novembre dernier. Ils ont convenu de se rencontrer à une date ultérieure. Ankara et Moscou se sont engagés à relancer leurs relations bilatérales, a souligné la présidence turque dans un communiqué. Le président Poutine, pour sa part, a ordonné la levée des sanctions russes contre la Turquie dans le domaine touristique et la normalisation des relations commerciales bilatérales.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique maintenant, Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité continue à Abidjan. Un ex-chef de milice partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo a accusé Simone Gbagbo hier d'avoir financé son mouvement, Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Moïse Harold Metch est arrivé menotté à l'audience à la cour d'assises d'Abidjan. Celui qui se fait appeler commandant Hôtel ou colonel H s'est présenté comme le chef du GPP, le groupement des Patriotes pour la Paix, une des nombreuses milices qui sévissaient sous le règne de Laurent Gbagbo. Le GPP avait été créé pour le maintenir au pouvoir, a expliqué le témoin à charge, assurant que l'ex-première dame était leur financière. L'ex-milicien a expliqué hier, pendant près d'une heure, le rôle et les actions de son mouvement. « Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro-Ouattara », a-t-il déclaré, ajoutant que les membres du GPP disposaient d'autorisations de port d'armes qui leur permettaient d'intimider les opposants. Madame Gbagbo, qui avait déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comparaît depuis le 31 mai accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
RDC, l'opposition congolaise dit non à l'appel du président Joseph Kabila à participer à l'enrôlement. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce une tentative de distraction du peuple congolais et de la communauté internationale quant à la date constitutionnelle de la présidentielle. On écoute Emery Damien Kalouira, président de la CCT.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Les Congolais Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila, en vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis et la France ont soutenu l'ex-président tchadien Hissène Habré tout au long de son régime. C'est ce qui ressort de deux rapports publiés mardi par l'ONG Human Rights Watch. Ces documents détaillent l'appui de Paris et Washington à l'ancien président tchadien, notamment dans sa prise du pouvoir et sa guerre contre l'invasion libyenne. Pour en savoir plus, Timothée de Longmaille a joint à Londres Reed Brody, porte-parole de Human Rights Watch.
La France a soutenu Hissène Habré surtout militairement. Il y a deux opérations militaires, Manta et Épervier, qui avaient pour objet de renforcer Hissène Habré et de bouter dehors la Libye de Muammar Kadhafi, qui occupait le nord du Tchad. Le soutien de la France et des États-Unis à Hissène Habré est largement dû à cette idée de utiliser Hissène Habré comme bouloir contre Muammar Kadhafi.
En quoi a consisté l'aide américaine à Hissène Habré?
Bon, les Américains étaient impliqués avant la France. C'est le gouvernement de Ronald Reagan qui a voulu que Hissène Habré prenne le pouvoir. Et la première opération clandestine de l'administration Reagan, c'était de porter Hissène Habré au pouvoir pour donner un coup de nez à Kadhafi. Et les États-Unis ont travaillé étroitement avec l'appareil sécuritaire de Hissène Habré. Il y a beaucoup d'agents de la fameuse DDS, la police politique d'Hissène Habré, qui étaient formés aux États-Unis. Il y avait même un fonctionnaire de l'ambassade américaine qui était considéré par la DDS comme la liaison à cette police brutale. On sait aussi que les États-Unis avaient utilisé les soldats libyens capturés par Hissène Habré. La CIA a formé une petite armée contre Kadhafi dans une base clandestine au Tchad que même les Français ignoraient et qui était destinée à combattre Kadhafi. Mais finalement, Hissène Habré, il a été conversé avant que ces soldats entrent en action.
Hissène Habré a été condamné à Dakar. Que disent Washington et Paris par rapport à leur aide passée à l'ancien président tchadien?
C'est intéressant. Les États-Unis, il faut dire que l'administration Obama a été un des grands soutiens de la lutte des victimes. Les États-Unis ont fait pression et sur le Sénégal et sur le Tchad pour avancer. Le président Obama a même félicité Macky Sall pour l'initiative de juger Hissène Habré. Et au moment de la condamnation d'Hissène Habré, le secrétaire John Kerry avait dit que cette condamnation présentait une occasion pour les États-Unis d'examiner, de tirer des leçons sur la connexion, comme il a dit, des États-Unis avec les événements du Tchad d'Hissène Habré. Bon, la France a aussi soutenu les Chambres africaines extraordinaires, mais beaucoup plus modestement. Et la France n'a jamais parlé publiquement de son soutien passé à Hissène Habré.
Reed Brody, porte-parole de Human Rights Watch, joint à Londres. Corne de l'Afrique, l'Érythrée dit craindre une reprise à grande échelle de sa guerre avec l'Éthiopie. C'est ce qu'a déclaré mardi son ambassadrice à Paris, Eric Manirakiza.
Anna Simon a hier déclaré que l'Éthiopie a déjà commencé à attaquer, s'exprimant dans une conférence de presse. Elle a ajouté que la guerre peut être relancée n'importe quand, à grande envergure. Le 13 juin, les frères ennemis de la Corne et de l'Afrique se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché les hostilités à leurs frontières. Même le bilan des combats a été très disputé. Puis le régime éthiopien a mis en garde contre le risque de guerre totale. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit voter dans quelques jours sur la situation en Érythrée après un rapport accablant. La commission d'enquête a même recommandé une saisine de la Cour pénale internationale. Pour Anna Simon, ce rapport qui accuse Asmara de tous les crimes pourrait servir les intérêts éthiopiens et ses alliés. Selon elle, on diabolise un pays et après on l'attaque, comme ce fut le cas en Irak et en Libye.
Et pour terminer, l'Euro 2016 de football, la compétition reprend demain avec les quarts de finale au programme Pologne-Portugal en ouverture du bal jeudi. Vendredi, la Belgique joue contre le pays de Galles. Samedi, ce sera Italie-Allemagne. Et dimanche, au Stade de France, les Bleus affrontent l'Islande qui a éliminé l'Angleterre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.